Eh bien, avec quelques minutes de retard, mais on va les rattraper. Vous avez vu que c'est un démarre très fort cette année, puisque d'habitude on avait un petit coup d'envoi avec nos invités étrangers et français qu'on vient d'avoir tout à l'heure à l'espace court, mais ça ne démarrait qu'à 14h. Eh bien, cette année, on remet le prix imaginal des collégiens et des lycéens cet après-midi. Du coup, vous avez pas mal de jeunes, mais pas que. Le public est là dès 10h, dès 11h, et ça nous fait plaisir. Alors, pour cette 10e édition, il y a toujours ce petit moment, je dis pas de stress, mais en tout cas de bonheur de vous retrouver et de savoir qu'on va à nouveau passer 4 jours ensemble, où l'équipe va être sur la brèche tout le temps, mais en fait, elle est comme vous, elle n'a pas l'impression de travailler, elle vient faire ce qu'elle adore, c'est-à-dire parler de littérature, rencontrer les écrivains et vous donner vous aussi envie de les rencontrer, de les lire. Alors, princesse charmante aussi, après tout, hein, pourquoi est-ce que les princes seulement charmants? Dans la vie réelle, c'est pas toujours le cas. Donc des princes et des princesses, et c'est vrai que c'est un thème extrêmement classique en littérature, et en particulier dans le conte, et la fantaisie qui quand même s'est beaucoup inspirée du conte, a très vite repris. Est-ce que ces clichés ont la vie dure? Est-ce que ça passionne toujours nos auteurs, y compris les auteurs retardataires? Bonjour Maya. Maya Mazorette qui nous arrive, mais c'est vrai que elle nous est venue de Berlin, alors bon, voilà, le décalage horaire. Donc Maya Mazorette que vous connaissez bien, y compris prix imaginal des lycéens récemment. Charlotte Bousquet, donc auteur de fantasy en particulier, sinon essentiellement. Coup de cœur du festival cette année, voilà, ça c'est pas rien. Et prix imaginal du meilleur roman de fantasy, joli doublé pour démarrer. Et donc évidemment, c'est une des raisons qui explique qu'elle est présente sur ce premier café littéraire que j'anime. Nathalie Do, qui est une habituée comme éditrice, comme amie, visiteur, voilà, parce qu'on ne dit pas visitrice, et puis comme auteur, bien évidemment, en particulier cette année, où non seulement elle a des ouvrages qui sont présents, en particulier ses chroniques myalgiques, contes myalgiques, pardon, et puis aussi cette année, une nouvelle que je lui ai réclamée dans l'anthologie du festival. Voilà, c'est aussi toujours un bon signe quand on fait appel à des auteurs de fantasy. Et puis, Anne Fakouri, qui est là depuis pas mal d'années déjà, qui 3 ans, voilà. C'est ça aussi les imaginales, c'est des habitués. C'est-à-dire qu'on fait venir une fois, la greffe prend, puisqu'on demande aux auteurs non seulement d'être talentueux, mais en plus d'être sympathiques. C'est une marque de fabrique des imaginales. Voilà, après cette brève présentation, Maya Mazorette, vous qui n'hésitez pas dans d'autres domaines que la fantasy, dans vos blogs parfois, non je dirais pas l'Est, mais en tout cas engagé, et puis qu'hésite pas à parler de sexualité, puisque c'est au départ, avant les romans de fantasy, un des thèmes sur lesquels vous travaillez, avec toujours ce petit côté humoristique et caustique qui parfois bouscule les idées reçues et les préjugés. Vous aimez, vous, Maya, les princes charmants? Vous y croyez aux princes charmants?
Non, malheureusement, je n'y crois plus. Mais c'est dommage, c'est joli. Récemment, je parlais de ça et je disais qu'en fait, l'histoire du prince charmant, c'est pas tant en fait que les femmes ont besoin de croire au prince charmant, c'est que les hommes ont besoin que les femmes croient au prince charmant. Parce que si elles arrêtaient d'y croire, d'un seul coup, bah, elles pourraient coucher beaucoup plus qu'elles le feraient. Elles pourraient comparer, d'un seul coup, les hommes, elles pourraient arrêter d'être amoureuses. Parce qu'en fait, on est assez bien dressées à tomber amoureuses très rapidement. Et donc peut-être qu'on tomberait amoureuse moins facilement, et peut-être qu'ensuite on comparerait les hommes, et peut-être qu'on comparerait un petit peu leur performance sexuelle. Et donc je pense que c'est pour ça qu'en fait les hommes qui sont au poste de pouvoir, qui écrivent pas mal de livres qu'on lit, qui font les émissions de télé, qui éduquent aussi leurs petites filles, font en sorte qu'elles croient au prince charmant pour essayer d'entretenir comme ça le fait qu'elles aient des sentiments. C'est pas que eux se dressent pour avoir des sentiments pour nous, parce que ça fait un peu mal d'être amoureux et tout. C'est qu'ils ont besoin que nous, on croit au prince charmant pour qu'on soit des bonnes amantes et des bonnes épouses et des bonnes femmes.
Ah ben ça commence très fort, ces imaginales. Eh bien voilà, première réponse à ma question. On va essayer de voir si un auteur qui écrit pour la jeunesse, comme Anne Fakouri, quand même, en particulier quand même, est-ce que cette mission de faire croire, entre autres, aux petites filles, au prince charmant, est-ce que quand même vous la défendez, Anne Fakouri?
Pas du tout. Croire au prince prince charmant, ça marche peut-être encore pour la génération des enfants actuels à la maternelle, effectivement. Et encore, ça dépend des enfants. J'ai une fille qui n'est pas une princesse, qui va être reine. Elle est trop compliquée. Je crois que cette génération qui arrive et que je vois dans mes élèves, que je vois dans mes enfants, ne croit plus en son prince charmant très vite. Croit à un rapport d'égalité, de plus en plus. Et on peut le voir en particulier, là je pense à une forme de fantaisie qui est la Lilith. Dans la Lilith, qui était autrefois un roman sentimental, qui est un petit peu aujourd'hui un roman sentimental avec des vampires et de l'action, où les femmes ne croient plus au prince charmant. Elles attrapent le prince charmant. Et le rapport de force devient vite un rapport d'égalité. Donc j'ai le sentiment, moi, que cette génération n'est plus dans ce rapport de prince charmant à princesse, mais de peut-être de guerrier à guerrière. Alors parfois côte à côte, parfois l'un contre l'autre, parce qu'on ne peut pas sortir comme ça de décennies de rapports de domination. Mais effectivement, oui, on a un rapport de confrontation ou d'accompagnement. Mais en tout cas, pour moi, le prince charmant, oui, on est trop, effectivement, maternel. Plus après, parce que la littérature ne fait plus croire au prince charmant. À partir du moment où on sort du conte traditionnel, on tombe dans une littérature jeunesse qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus active, on s'aperçoit que finalement, les garçons et après les hommes ne sont plus séparés par ce fossé qu'il y avait autrefois. Ou alors j'ai envie de croire, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est ce que je vois dans la littérature jeunesse et dans la littérature pour adultes en particulier aujourd'hui.
Nathalie Do, dans vos propres œuvres, mais aussi les questions parfois des violences entre les sexes, c'est une question qui vous préoccupe. Et dans Victime et Bourreau, l'anthologie du festival dont on parlera samedi, et votre nouvelle, quand je l'ai lue avant de la publier, je me suis dit, ça y est, c'est une histoire de prince charmant, elle est amoureuse, on va la marier. Au début, elle est un peu réticente, et puis elle tombe amoureuse, et puis malheureusement, ça ne va pas être si simple. Et là, encore une fois, je me dis, deux déjà, vous non plus, vous ne croyez plus en littérature au prince charmant ?
En fait, c'est plus compliqué que ça. Je crois que j'y crois plus dans la vraie vie que dans la littérature. Mais que le prince charmant n'est jamais le prince. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre son statut social et ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans l'âme. J'ai rencontré des individus au fil de ma vie particulièrement ignobles. J'ai failli désespérer de l'espèce humaine. Et puis j'ai rencontré des gens qui avaient une âme magnifique, qui m'ont permis de croire à nouveau. Et moi, je vis avec un prince charmant depuis du temps. Il n'est pas prince, mais c'est mon prince charmant à moi. Et tout ce que je souhaite à mes filles, c'est qu'un jour, elles trouvent quelqu'un comme ça.
Si je peux me permettre de demander, j'adore l'idée de pas le premier charmant.
Oui,
avant de l'idée de statut social, pas le premier charmant, c'est chance aussi.
Exactement, donc moi c'est le douanier charmant, enfin informaticien. Voilà. Et sinon, je rebondis un petit peu sur ce que disait Anne, je suis maman de trois filles, et elles ont pourtant vu des Disney, vu des contes comme tout le monde, mais les garçons qui les ont fait craquer, ça a été Son Goku et Sacha les Pokémon.
Bon, est-ce que au moins le coup de cœur du festival ne va pas nous décevoir alors, Charlotte Bousquet, vous attendez encore le prince charmant ? Vous l'avez trouvé ? Rassurez-nous.
J'ai trouvé un prince charmant, mais en fait, je rebondirai plus sur ce que dit Maya. Je pense que le prince charmant, c'est aussi une manière pour les femmes et les hommes ou la princesse charmante. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas, voilà, de s'aveugler, de ne pas vivre. En vivant dans une attente, enfin, en attendant quelque chose qui ne vient pas, parce que vous vous conformez à un idéal, ou alors d'être totalement libre parce que vous attendez le prince charmant. Je suis vraiment désolée, t'es pas le bon, ça n'a pas marché entre nous et ça vous permet d'avoir énormément d'expérience. Voilà. Donc c'est une grande liberté sexuelle.
Bon, ben on va revenir au livre quand même après ce petit détour. Je dis, on va attendre parce que sinon je vais avoir les aveux les plus doux. Dans Citariae, Charlotte, vos personnages féminins, comment ils se positionnent justement par rapport à ces thématiques Ils sont en attente, ils sont indépendants. Enfin voilà, comment ce que vous pensez dans la vraie vie rejaillit dans vos romans ?
Non, c'est une bonne question. Dans Citeriae, Nola n'attend plus rien. Nola a été amoureuse, a cru à un prince charmant, et le prince charmant l'a laissé baignant dans son sang avec un avortement qui a mal tourné. Donc elle n'attend plus grand-chose. Et en fait, la personne qu'elle rencontre, ça va être d'abord un ami, et puis un hybride entre... Un humain et un démon, donc peut-être est-ce une forme de prince, peut-être est-ce simplement quelqu'un qui la reconnaît pour ce qu'elle est et qui l'accepte pour ce qu'elle est. Les autres femmes de Citeriae, je pense à Pamina qui effectivement attend un prince charmant qui attend l'impossible, et elle aussi c'est une manière, je dirais, de ne pas vivre. Et la troisième grande, le troisième grand personnage féminin de Citeriae, c'est Rosanna. Et Rosanna a décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle préfère les femmes. Les hommes ne l'intéressent pas et elle multiplie les amantes. Est-ce que ça répond à votre question ?
Oui, tout à fait, Charlotte Bousquet. Maya Mazorette, dans votre précédent roman, ce roman de fantasy, c'était une société, on pourrait dire, un peu post... apocalyptique, c'était une société violente, brutale, et y compris les femmes de vos romans, elles étaient plus dans l'affirmation, c'est des femmes de pouvoir, des femmes guerrières.
Oui, je remarque qu'en fait on n'est que des femmes là pour parler de Prince Charmant, c'est quand même assez amusant. Non, je m'étais amusée en fait pour ce roman-là, j'aime bien en fait certains des gros clichés de la fantasy, et il y a un cliché qui est d'avoir une équipe d'aventuriers qui vont faire une quête. Et j'ai inversé en fait dans ce roman les personnages masculins classiques et les personnages féminins classiques. Et souvent dans les romans comme ça d'équipe de super-héros, il y a une princesse qui sert un peu à rien, ou alors qui est jolie, ou alors qui soigne un peu les plaies. Et donc dans mon équipe de héros, il y a un prince qui est pas du tout un prince charmant, mais il y a un prince qui est un peu plus faible que les autres, donc que les autres protègent un peu, qui porte toujours un espèce de voile. Et donc, moi, je m'étais amusée comme ça, en fait, à tourner autour du cliché du prince et de la princesse. Donc, il y a une princesse, mais c'est un homme. Voilà.
Nathalie, dans vos histoires, parfois aussi, ces rapports difficiles entre les sexes, ça rejaillit dans vos récits ?
En fait, c'est plutôt des rapports difficiles. C'est une quête de l'égalité et un refus du patriarcat qui implique justement... une maltraitance d'un sexe par l'autre. Mais sinon, je trouve qu'on parle beaucoup du prince charmant et pas tellement de la princesse charmante.
Ben, il nous reste la moitié du temps encore pour parler des princesses charmantes.
Non, qu'est-ce que je pourrais te dire sur le sujet ? Les princesses, en général, sont des femmes fortes qui perdent leur statut justement parce qu'elles ont été fortes et qu'elles n'ont pas voulu rester dans le cliché de la princesse soumise, la princesse joyau de la couronne de son père, qui est là un petit peu comme le trophée qu'il offrira à son champion. Donc elle refuse ça, elle refuse de n'être qu'un objet. Elle s'inspire en général du modèle de la femme celte, qui était beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante, et qui était la détentrice de la souveraineté. Ce ne sont pas des clichés de princesses charmantes. Et puis, alors, les princes charmants, j'en ai pas. En fait, j'en ai pas.
Ouais, il va falloir se consoler autrement dans Narcos. Narcogénèse, pardon. Narcogénèse. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans Narcogénèse, donc, votre dernier roman. Alors là, on n'est pas du tout confronté à des princes charmants et surtout pas des princesses charmantes. On a même des femmes un peu effrayantes dans ce livre, quand même, un peu quand même, hein. Beaucoup. Et là aussi, l'horreur, c'est les rapports entre les êtres humains dans ce roman. C'est un roman fantastique, je précise, pour adultes. Hein. C'est vraiment pas à mettre entre les mains d'un collégien. Lucien, oui, mais pas un très jeune collégien. C'est un livre quand même violent dans les rapports humains. Il y a très peu de gore, de choses brutales, je dirais, mais il y a une horreur psychologique, il y a une violence des rapports humains, moi, qui m'a particulièrement marqué. Je l'ai lu parce que, en toute honnêteté, vous veniez. Le thème, personnellement, ne me disait pas grand-chose. Je l'ai ouvert. et je l'ai fini, évidemment. C'est-à-dire que c'est un livre très fort, un livre qui m'a bousculé, dérangé, interrogé, un livre qui, sur les rapports entre les sexes et les rapports entre, au sein de la famille, est un livre quand même, là aussi, qui nous renvoie bien loin des princes et des princesses charmantes.
Merci beaucoup. Le premier lecteur, c'était Jean-Claude Villard, qui m'a fait comme première réflexion, pas bon être un homme dans tes livres. Et effectivement, dans Arc Jeunesse, la famille est une famille matriarcale, avant tout dirigée par une femme terrible, dont l'ombre évidemment plane encore bien après sa mort. Le danger, ça n'est pas tant les rapports entre les êtres humains, mais les rapports entre les êtres humains d'une même famille, et entre les femmes d'une même famille, du début du XXe siècle à maintenant, avec une évolution, et la façon dont les hommes perçoivent les hommes, et la façon dont les hommes n'arrivent pas à trouver leur place dans cette famille. Dans Marco Gétanès, les hommes soit morts, soit se tirent. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de princesse, évidemment. La seule, ce serait peut-être Diane, qui est la fille aînée de la famille, qui est la seule véritable amoureuse, qui est celle qui fait une rencontre amoureuse dans le roman. On pourrait dire que le flic est un prince charmant, basé sur un anti-cliché, effectivement. Mais non, il n'y a pas de prince, il n'y a pas de princesse en soi, il n'y a que des femmes fortes. Et des femmes fortes qui essaient, à certaines époques, non pas de leur vie, mais à certains moments, de rester des femmes fortes, et de rester entre elles, et de transmettre un don, de transmettre un savoir. Et pour transmettre ce savoir, pour transmettre ce don, on ne peut pas trouver amoureuse. Tomber amoureuse, avoir des enfants, c'est disperser son énergie, c'est disperser son intellect, et ne pas pouvoir donc transmettre ce don qui est vraiment un don féminin. Voilà, c'est un don de sorcière en l'occurrence. La seule femme qui tombe amoureuse, qui trouve son prince charmant, qui fait une rencontre en soi, dans le passé, c'est la mère. Claude, c'est la seule qui n'a pas de don, qui est tout son don, qui est incapable de voir, qui enterre ses enfants d'ailleurs, parce qu'elle est amoureuse. Contre ça, elle vit effectivement un grand amour face à un homme très fort qui vient perturber la famille. Donc oui, c'est une vision matriarcale forte. Je reste persuadée, moi j'ai une famille un petit peu comme ça, soyons clairs, j'ai rien inventé. J'ai une famille d'artistes aussi, j'ai parfaitement conscience que, dans ma famille, il y a toute une légende amoureuse, effectivement, avec des princes charmants. On rencontre un prince charmant et en dépit des conventions sociales, on l'épouse. J'ai une arrière-grand-mère qui était noble, qui a épousé Taffrenet. Moi, j'aime beaucoup Taffrenet, charmant. Au 19e siècle, c'était très rare. Elle a attendu ses 21 ans et elle a présenté des actes respectueux à ses parents. Donc, voilà. Donc, j'ai été élevée dans cette légende-là et j'ai parfaitement conscience que si aujourd'hui je peux écrire, je peux publier, en dépit de mon milieu social, en dépit des conventions, c'est parce que je suis née à la fin du 20e siècle. Et c'est ça aussi qui m'intéressait, de voir comment, petit à petit, les femmes fortes, en refusant cette attente dont on parlait, arrivaient à être indépendantes, arrivaient à être libres au prix de sacrifices que je ne justifie pas et que je n'appuie pas, mais qui sont réels et qui ont été réels, en fait, tout au long du XXe siècle, qui a été l'époque vraiment charnière d'une libération, et on a abandonné justement l'idée de princesse. Et on a vu l'émergence, d'ailleurs en fantaisie, de ces guerrières, petit à petit, et de ces femmes qui se battaient avec les hommes, contre les hommes, côte à côte aussi.
Oui, Nathalie.
Je viens de repenser en fait à un de mes textes en écoutant Anne, c'est Lucine, dans lequel justement l'héroïne Lucine est une princesse qui se fait violer par son père et qui abandonne tout pour se retrancher dans la forêt, et qui effectivement, parce qu'elle est en révolte contre le patriarcat, quelque part, oui, elle est en attente d'un prince charmant, d'un homme qui saurait la respecter et l'aimer pour ce qu'elle est. Et elle va, dans cette forêt où elle devient une sorcière, elle va capturer régulièrement les messagers que son père envoie à l'évêque en espérant avoir des secours, puisqu'elle a magiquement enclos son royaume. Et les messagers, elle les séduit, mais lorsqu'ils lui font comprendre que, pour eux, parce qu'elle est justement une femme forte, elle est qu'un coup d'un soir, et qu'ensuite ils vont rentrer chez eux et épouser une femme bien soumise, bien stéréotypée, telle qu'on l'aimait au XIIIe siècle et telle qu'on a continué à l'aimer par la suite, et bien elle les tue. Elle les tue, mais elle continue à espérer. Elle continue à espérer qu'un jour il y en aura un. Donc je pense que oui, elle prend une pension.
Mais non, tu beaucoup pour arriver à peut-être en trouver un. Maya, tout de suite, que ce soit sur votre blog ou dans vos romans, vous êtes affranchie de oui, toute cette vision un petit peu traditionnaliste du rôle des femmes. Et c'est d'ailleurs avant de vous inviter aux Imaginales, c'est un peu comme ça que je vous ai rencontré avant de vous connaître personnellement. Une femme indépendante, une femme qui n'est pas anti-homme, hein, vous aimez les hommes, vous proclamez, je révèle rien, elle a fait son coming out, vous êtes hétérosexuel. Non, mais je vous rassure, c'est pas grave non plus. Donc Maya, non, festival très tolérant.
C'est pas très sympa de ta part.
Tout le monde est accepté ici, il n'y a aucun souci. Donc Maya, vous aimez les hommes, mais néanmoins, vous qui aimez bien, châtie bien, c'est ça?
Oui, c'est sûr. En fait, j'écris, j'ai la chance d'écrire pas mal pour des magazines masculins. J'ai fait quasiment toute ma carrière chez Playboy, New Look, FHM et maintenant GQ. Donc je parle beaucoup aux hommes et je vois qu'il y a une vraie demande de leur part de savoir ce que les femmes veulent. Comme si on avait qu'une, comme si on voulait toutes la même chose. Donc c'est assez marrant parce que je me retrouve en position de pouvoir donner mon avis comme si c'était un peu la parole divine. Et c'est très pratique. Mais ensuite, par contre, en tant que romancière, quand j'arrête de faire n'importe quoi, je crée d'abord des personnages, en fait, avec leur histoire, leur caractère. Et ensuite, le genre, en fait, c'est ce qui arrive en dernier. Et des fois, quand je vois un petit peu mon équilibre des personnages, je me dis, ah non, il y a trop de filles, ou alors non, il y a trop de garçons. Donc certains personnages changent complètement de genre. Ça peut être au milieu du livre, au milieu de l'écriture. Parce que pour moi, personnellement, ensuite, là, les gens pensent qu'ils veulent. Le genre n'est pas une question pertinente. Ensuite, il y a ce que les gens ont envie d'être ce qu'ils sont. Mais alors que ce soit des hommes ou des femmes, dans la mesure où j'écris de la fantasy et de la science-fiction, c'est des guerriers. Donc ça change pas fondamentalement grand-chose qu'ils aient un utérus ou pas pour le faire. Et j'ai poussé ça dans le dernier roman jusqu'à avoir un personnage principal dont on ne sait jamais si c'est un homme ou une femme parce que j'estime, moi, que ça n'a aucune importance. Et il y a un autre personnage qui est défini comme homme, qui tombe amoureux de cette entité homme ou femme. Et pour lui non plus, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, je suis peut-être ensuite en train de pousser les choses très 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 loin. Mais les histoires d'hommes et de femmes, j'estime les avoir dépassées complètement. Tout en étant hétérosexuel, donc ça, c'est un peu le paradoxe, mais bon.
Ça n'empêche pas d'être ouvert, hein. Je vous rassure, Maya. Non. Plus sérieusement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réaction, compris des jeunes lecteurs. Parce que justement, quand vous avez eu le prix Imaginal des lycéens pour ce roman, auquel vous faisiez allusion, il y a quelques lycéens qui ont été interrogés par ça, qui ont dit, mais on ne sait pas à la fin, finalement, c'est un homme ou une femme, le personnage et tout. Mais ça ne les a pas dérangés, ça les a interrogés, mais pas dérangés, au-delà du fait qu'ils ont en effet décerné leur prix. Un roman qui aurait pu bousculer un certain nombre de conventions.
Oui, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, il faut imposer les choses et pas les justifier. C'est-à-dire que je pourrais écrire des livres dans lesquels je dis je pense, moi, Maya Mazorette, que les genres sont une notion complètement dépassée, et par conséquent, il va y avoir des guerrières, et elles vont se battre, et il va y avoir des hommes qui peuvent être sensibles, et puis on s'en fiche un peu, en fait. Mais en fait, plutôt que d'expliquer, je crée des personnages qui sont des guerrières, qui ont des titres qui sont féminisés. Et c'est comme ça. Il y a moitié de personnages féminins parce qu'il y a moitié de femmes dans la vie. Et si je l'expliquais, ensuite les gens pourraient le contester. Mais si on ne l'explique pas, en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Donc il faut faire les choses naturellement, sans forcer. Et puis, en fait, on découvre que les lecteurs sont prêts à tout lire, tout entendre, tout accepter. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Quand même, ça vous manque pas d'utiliser des clichés parfois. Parce que je me dis que finalement, la princesse, le prince charmant plus exactement, c'est quand même un cliché important dans les littératures. Est-ce que pour vous, il va disparaître dans la littérature? Je ne parle pas de la vie réelle. Est-ce qu'il va disparaître dans la littérature? Ou est-ce que vous pouvez vous le réapproprier pour le transformer, l'utiliser autrement, le détourner et finalement reprendre ce thème pour le faire rebondir? Est-ce que ça vous donne des envies? Un thème comme ça, ou alors vraiment pas du tout?
Moi, oui. Oui, complètement. Tous les stéréotypes, même ceux qui ne sont pas vraiment... Si on parle du prince charmant classique qui vient éveiller la jeune fille en fleurs à sa vie et à sa sexualité, évidemment, c'est horrible. Mais justement, il y a plein de choses à faire à partir de ça. Moi, Je m'interdis absolument pas d'utiliser des princes charmants et des princesses charmantes à l'avenir. Au contraire, je trouve ça passionnant.
Je serais assez comme toi. Je trouve que les stéréotypes et les clichés sont très drôles parce que justement, ils peuvent être tournés, ils peuvent être explorés. On peut découvrir aussi énormément de choses, tout ce qui se cache derrière, derrière ça, justement, derrière cette image un petit peu... niaise et du prince qui va éveiller sa princesse et ce genre de choses. De quelle matière il est fait, ce type? Qui c'est, en fait, ce prince ou la princesse, cette princesse qui va attendre ou qui va renverser des montagnes, affronter des dragons? Mais qu'est-ce qu'il a vraiment dans le cœur? Qu'est-ce qu'il a vraiment dans l'âme? Je pense que c'est ça aussi qui peut être intéressant, qui peut donner de la matière à l'écriture.
Et puis, si je peux juste mentionner un livre qui fait ça, ce serait Anne Rice avec les mésaventures de la Belle,
au bois dormant.
qui est donc vraiment pas pour, pour un lectorat non averti, qui commence l'histoire après que le prince charmant ait éveillé la princesse. Et c'est donc trois tomes d'apprentissage sadomasochiste. Absolument incroyable. Et donc ensuite, c'est, on apprend du coup de quoi le prince charmant est fait. Cet homme qui arrive avec son épée et qui va réveiller la femme, en fait, il veut en faire son esclave. Et puis, elle aime ça.
D'accord. Anne Fakouri.
Sur l'utilisation des princes et princesses, non. Moi, non. Ça ne m'inspire pas du tout parce que je n'ai pas toute cette vision de, ni de l'amour, ni du conte. De l'amour parce que je n'ai jamais entendu le prince charmant. Jamais. C'est-à-dire que même petite, je n'attendais pas le prince charmant. Moi, ce que je voulais, c'est vivre seule, avoir des amants. Ça, c'est plus à 12-13 ans. Quoi. Voilà, résultat, je suis mariée avec deux enfants, j'ai dû foirer quelque chose, quelque part. Donc, non, le prince charmant, je ne l'ai jamais attendu. Et même dans les contes, quand on regarde bien les contes qui m'amusent le plus sont ceux où le prince charmant est une potiche, comme Blanche-Neige. Où le prince charmant arrive à la fin, embrasse Blanche-Neige, fin. Voilà ce qu'a fait le prince charmant. Dans les contes, on trouve ce prince charmant petit. Je l'amuse beaucoup d'ailleurs dans Le Père Voyage, qui est mon roman jeunesse. Clara a été prédestinée à un grand amour par sa grand-tante, qui a fait un peu un commerce avec les fées. Et elle rencontre son grand amour quand elle a 12 ans, et en fait, ça l'ennuie terriblement. Donc elle se dirige vers un autre jeune homme qui est le contraire du prince charmant, qui est un intellectuel qui n'a jamais pris sur rien, qui n'a pas d'épée, qui n'en a rien à faire, qui vit au crochet d'une dryade, voilà. Donc vraiment aussi un peu une potiche, très sexy, mais une potiche. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à utiliser la princesse et le prince charmant parce que, voilà, parce que je crois que j'ai pas attendu ce prince charmant. Moi j'ai attendu un guerrier ou j'étais assez ouverte finalement, et je crois que, en plus, le 21e siècle, c'est vraiment sexuel. J'adore cette idée de la transsexualité, c'est ce qu'on trouve dans une série qui s'appelle, j'avais joué que je le placerais, Doctor Who et Torchwood, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le personnage du capitaine Jack Harkness, qui a comme forme de sexualité tout, même le guéridon. Enfin, voilà. C'est joli, c'est pour moi, c'est bien. Et je crois que le 21e siècle sera terriblement Jack Harkness, transsexuel par excellence. Donc le prince charmant a du souci à se faire en littérature aussi, je crois.
Est-ce que finalement cet archétype, ce cliché parfois, est-ce qu'il ne peut pas être réutilisé justement quand même en littérature? Bon, il y a des auteurs qui me disent non, là c'est très clair, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie de le faire. Mais est-ce que finalement, par exemple Nathalie Dow, est-ce que ce n'est pas un sujet, même si vous êtes beaucoup une novelliste, est-ce que ça ne pourrait pas être un beau sujet de roman de reprendre justement un cliché comme celui-là, en tout cas d'en faire un archétype et de le bousculer, de le torturer, de le reprendre, voilà, pas le prince charmant, hein, le sujet.
Il n'est pas prince, mais il est charmant. Moi, quand j'étais petite, je rêvais pas de prince charmant, je rêvais des anges. Non, parce que j'étais plus dans les tripes, trouver l'âme sœur, des relations très désincarnées, des choses que je retrouvais après, que j'ai beaucoup aimé lire sous la plume de Madame Simon Bradley dans La romance de Ténébreuse.
les cercles de gardiennes, avec les techniciens de matrice, et où à partir du moment où ce sont les âmes qui s'unissent, peu importe le corps qu'il y a derrière, c'est qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit l'un et l'autre, du moment que ce sont eux. Et donc j'ai toujours été là-dedans. Maintenant que j'ai découvert le yaoi, je me dis chouette, il y a plein de gens comme moi, donc je me régale en lisant des livres comme ça. Et le personnage, en fait, la nouvelle qui est dans l'anthologie du festival, elle s'inscrit dans le cycle de romans sur lequel je travaille. Et y a un personnage principal qui est mon pur fantasme, et qui n'est pas du tout un prince charmant, qui n'est pas du tout ce à quoi rêvent les filles normales, entre guillemets.
Est-ce qu'il y en a encore ? Plus sérieusement, sur cette question, est-ce que vous pensez, Charlotte Bousquet, bah oui, le coup de cœur est réinterrogé systématiquement pendant tout le festival, est-ce que vous pensez que les personnages féminins que vous utilisez dans vos romans, ce sont des personnages qui sont plus proches de la vie réelle que du conte, finalement, même si vous faites des histoires de fantasy où il y a des mondes imaginaires, beaucoup d'aventures, parfois des monstres, est-ce que finalement, ce n'est pas des archétypes féminins que vous nous proposez, à l'exception en effet de la princesse charmante, et elle ne rencontre pas beaucoup non plus, que ce soit dans vos nouvelles ou vos romans, des princes charmants.
Je ne sais pas si ce sont des archétypes. Certains, je dirais, dans la construction des romans, ben, y a dans le cycle des Numinés, il y a la triade des Moires, donc c'est vraiment les tisseuses. Sinon, concernant les héroïnes, elles sont peut-être plus proches de ce que, effectivement, de personnages de la vie réelle. Je pense à Théo. Théo, c'est quelqu'un qui passe son existence à fuir. Je connais énormément de personnes qui passent leur existence à fuir. Je pense peut-être que je fuis aussi quelque chose. Nola, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'en par l'automutilation. Donc, c'est des gens peut-être un peu particuliers, mais c'est des gens qui appartiennent à la vie réelle, qui ont des problèmes et qui se posent des questions qui sont des questions. Des questions humaines, tout simplement, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si c'est archétypé, mais en tout cas, ils sont très humains. C'est ce que j'essaie de faire dans le meilleur et le pire.
Je me disais que, tout à l'heure, on en parlait, la possibilité d'avoir l'année prochaine un café littéraire sur Prince et Princesse charmante, mais avec quatre garçons, ça serait pas mal.
Et oui.
Je prends date, ça va être amusant. Francis Berthelot, déjà, ça, je suis sûr que c'est un sujet qui va lui plaire. Et très kitsch là-dessus. Et je pense qu'on fera un café et on verra la différence. Ça peut être amusant de voir la différence de tonalité, de leur poser la question à eux. Est-ce qu'ils croient encore aux princes charmants? Enfin, est-ce qu'ils croient être des princes charmants ou est-ce qu'ils rêvent de leur prince charmant? Enfin, plutôt de leur princesse charmante dans la majorité des cas. Voilà, ça peut être un beau sujet. Pour conclure ce café littéraire, il nous reste encore quelques minutes. Comment vous, Maya Mazorette, abandonnons ces princesses un petit peu parfois godiche et soumise qu'on nous présentait comme un modèle dans les contes. Comment vous voyez les personnages féminins dans vos romans? Vous l'avez dit tout à l'heure, pour vous, ce n'est pas très important. Vous allez continuer à aller dans ce sens-là ou considérez que ce n'est pas très important finalement?
Non, je considère que ce n'est pas très important, mais c'est-à-dire pour moi, ça ne l'est pas, mais je sais que pour beaucoup de lecteurs, ça l'est. Donc je prends évidemment un malin plaisir à faire des personnages féminins qui sont des archétypes de personnages masculins. Donc guerrière, combattante, confrontation, tout ce qui a été dit en fait avant. Voilà, c'est-à-dire que ça aurait du sens d'avoir des personnages féminins qui soient des femmes si elles devaient tomber enceintes au milieu d'une bataille ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est pas le cas, comme je me sens pas d'attaque à aborder le sujet du viol... ça fait pas partie de mon imaginaire en fait que les femmes soient des femmes, donc je peux pas faire semblant après.
Nathalie, même question. dans ce cas-là on passe son tour. Dans ce cas-là, on change de question. Non, très très simplement, si ce que visiblement une partie du public, et en tout cas une partie des auteurs, sont rétifs à avoir des personnages de femmes qui sont dans l'attente et dans l'absence de vie quelque part, puisqu'elles sont en attente de quelque chose d'autre que ce qu'elles vont construire elles-mêmes. quel livre vous allez recommander parmi les vôtres, peut-être Narcogénèse, pour justement trouver des personnages féminins qui sont aux antipodes des femmes qui attendent.
Les deux, en fait, parce que Clara, dans mon livre de jeunesse, le thème du travail, c'est vraiment la responsabilité qu'on a, le rapport aussi aux autres d'égal à égal. Clara, dans le Père Voyage, est une petite fille qui se retrouve perdue parce qu'elle perd ses parents et immobile, et qui très vite se avance, grandit, prend en main sa vie. Mais Narcogénèse, effectivement, est peut-être plus représentative de l'image de la femme, de plusieurs femmes, donc, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, de plusieurs femmes qui évoluent au sein d'une même famille et qui quittent petit à petit les clichés de la princesse, effectivement, la femme qui attend, mais aussi ce cliché épouvantable de la femme qui manipule l'homme en lui faisant croire qu'elle est soumise, en lui faisant croire que c'est une princesse, alors qu'en fait, dans les cuisines, on tire les ficelles. Chose qu'on a voulu nous donner en modèle dans les années 50, enfin avant la Grande Libération. Donc effectivement, oui, plus représentatif de ce que je peux défendre comme image de la femme, voilà, c'est plus dans Narcogénèse.
Et vous, Nathalie Do, parmi ce que vous avez publié, si on veut découvrir votre image de la femme dans le roman, qu'est-ce que vous, dans la nouvelle, Contes Mialgiques ?
Les Contes Mialgiques, oui, le 1 étant un peu plus orienté conte, et le second étant plus sombre, plus orienté mâle, avec un M majuscule. Que ce soit, il s'appelle Les Atouts du Diable, mais le diable n'est pas présent en tant que personnage dans chaque texte, mais il est présent dans l'imaginaire des personnages. Et sinon, en roman, c'est dans Les Débuts du Chaudron, il y a la grande figure féminine, le modèle pour moi, qui est la déesse mère Kéredouane, et qui est mise en scène dans son roman.
Maya Mazoret, quel livre vous recommandez pour trouver votre image de la femme, ou justement, si vous n'en avez pas?
Dans les miens ou en général?
Dans les vôtres, non, dans les vôtres.
Dans ce cas-là, Dehors les chiens, les infidèles, avec le personnage principal, Espérance, qui est une guide, qui est la guide de ma fameuse équipe de super-héros, et voilà, qui est une guerrière, une chef, une vraie, avec des vraies capacités de leadership, comme on dit. C'est quoi le mot français? Commandement. Ouh là là. et voilà, qui est en même temps quelqu'un de très humble, et dont l'idée du prince charmant, c'est l'autre, son espèce d'alter ego dans le groupe, qui est un type pas très reluisant, un peu bordélique, dont on ne sait jamais s'il est vraiment très gentil ou vraiment très méchant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, au fur et à mesure de l'histoire, il monte dans l'échelle sociale, c'est-à-dire qu'il devient un chevalier, donc il se rapproche un petit peu du prince charmant, il devient de plus en plus présentable, mieux habillé, il essaie de s'exprimer mieux, et plus en fait il suit ce chemin-là, moins elle l'aime. Donc voilà, on n'est pas très optimiste en fait toutes les quatre sur le prince charmant là depuis une heure.
Ce n'est pas une surprise tout à fait, parce que j'ai quand même eu l'occasion de lire vos romans. Charlotte Bousquet, ça sera vous pour le mot de la fin de ce café littéraire. J'imagine que vous allez recommander Citariae, puisque c'est quand même le prix Imaginal 2011 du meilleur roman de fantasy, mais peut-être aussi le personnage central de Laura Nanzorox.
Oui, qui, elle, est une figure que j'ai vraiment complètement empruntée à Lara Croft et à la Biblite, qui est une guerrière, qui est une tueuse, et qui est non pas une image de la femme, parce que je crois que plus le temps passe, plus je rejoins un petit peu Maya sur certains points, mais qui est, elle, en attente d'un prince charmant et qui se plante lamentablement, systématiquement. Mais c'est une fille qui a été, qui est mexicaine, qui a été nourrie aux telenovelas, bon, vous le savez certainement, mais c'est la grande occupation dans les pays d'Amérique latine, c'est la telenovela, ça fait vraiment partie de la vie des gens. Ça nous paraît cliché, sauf que c'est des clichés qui sont vraiment réels. Et dans les telenovelas, vous avez des histoires d'amour interminables, des histoires de trahison. Vous avez énormément de princesses pauvres qui cherchent des princes, enfin qui attendent le prince charmant qui lui est riche, qui les trahit, mais finalement ça se termine bien. Donc elle a beau être une tueuse, oui bon, elle cherche son prince charmant, elle tombe systématiquement sur des princes charmants qui ne sont pas les bonnes personnes. Elle les tue pas forcément. généralement elle est très malheureuse et elle boit. Mais voilà, donc je pense que oui, ça peut aussi être une image assez assez rigolote et de ça. Et puis au-delà, il y a la question des femmes au Mexique, mais je pense que ça c'est plus trop le sujet de la table ronde. Donc voilà.
Et voilà, les princesses font plus recette, les princes charmants, ça devient difficile, mais les romans qui nous passionnent, par contre, ça, il y en a toujours plein aux Imaginales. C'est l'occasion de retrouver nos quatre autrices ou nos quatre auteurs. La langue française n'a pas réglé tout à fait. Auteureux, oui. C'est ce qu'on fait dans certains pays, mais en France, on a toujours du mal avec la féminisation des mots, ça provoque toujours des réactions. C'est un pays particulier, la France. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour votre présence à ce café littéraire. Merci à nos auteurs qui ont réfléchi sur un sujet qui a priori n'était pas leur. Et puis c'est l'occasion de les retrouver sous la bulle du livre parce que ça commence les dédicaces. Voilà, l'occasion de partir avec vos premiers livres. Merci.